Amis auditeurs, nous allons donc retrouver Anaëlle Sanzay pour cette émission sur l'éducation. Je vous rappelle que si vous souhaitez intervenir en seconde partie d'émission après la pause musicale, eh bien n'hésitez pas à décrocher vos téléphones si vous avez des questions à poser à Anaëlle Sanzay. Le téléphone, eh bien c'est le 04 94 209 109, 04 94 209 109. Anaëlle, alors je crois que le sujet du jour, ce sont les étiquettes. Bonjour Anaëlle et bienvenue sur Radio Maria.
Bonjour, bonjour chers auditeurs. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler des étiquettes et des rôles dans lesquels nos enfants se retrouvent enfermés. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qu'une étiquette et quel impact a-t-elle dans la vie de nos enfants? Tous autant que nous sommes, en avons rencontré au cours de notre vie, autant dans notre enfance qu'à l'âge adulte, et la plupart d'entre nous en sont encore victimes aujourd'hui, tout adultes qu'ils sont. Le capricieux, la timide, le râleur, la coléreuse, le bordélique, le clown, l'intello ou l'artiste de la famille. Nous retrouvons ces étiquettes partout, de la maison jusqu'au bureau, en passant par l'école, le boulot, le groupe d'amis ou même le club de loisirs. Bien ancrés dans nos fonctionnements, nous étiquetons constamment les gens qui nous entourent. Alors, zoom sur les étiquettes et leur effet au sein de la famille. Les étiquettes sont collées aux enfants, bien souvent d'une façon très banale. Face à un tout petit qui bouge beaucoup, qui aime grimper et fait preuve d'une grande curiosité en touchant à tous les objets autour de lui, très vite les parents peuvent entendre ou même dire eux-mêmes « Oh là là, eh bien bon courage, celui-là, il va vous en faire voir de toutes les couleurs. » Ou bien « Une vraie tornade ce petit, il ne s'arrête jamais. » Ou bien « Un préado qui oublie souvent des choses et se retrouve régulièrement embêté car il attend le dernier moment pour faire des choses, par exemple. Il va entendre une fois, puis deux, puis trois, des remarques du type « Oh là là, mais tu es le roi de l'organisation, toi, dis donc !» Cédric et son sens de l'organisation légendaire. Décidément, si ta tête n'était pas vissée, tu l'oublierais elle aussi. Et au travers du regard que ses proches vont porter sur lui, Cédric va petit à petit se percevoir comme désorganisé, tête en l'air, et le regard qu'il va porter sur lui-même va déterminer les directions qu'il va prendre au cours de toute sa vie, les objectifs qu'il va se fixer, ses rêves et même l'aboutissement de ses rêves. Il y a une citation que je souhaite partager avec vous. On étiquette les gens comme des bocaux car nous pensons savoir ce qui se trouve dedans. Le parallèle est intéressant. Parce qu'en étiquetant nos enfants comme des bocaux, nous risquons de limiter leurs possibilités. Premièrement, à cause de la façon dont ils seront perçus. Car si je n'aime pas la confiture de fraises, je vais mettre ce bocal de côté en principe. Pas l'ouvrir et me laisser surprendre par ce qui se trouve dedans. De toute évidence, c'est de la confiture de fraises. L'étiquette m'oriente avant même d'ouvrir le bocal. Je sais exactement ce que je vais y trouver. Ce qui veut dire qu'un enfant qui rencontre de nouvelles personnes en ayant une étiquette, eh bien, ces personnes donc qu'il rencontre pour la première fois, ça peut être un enseignant auquel le parent a dit eh ben, « bon courage pour la journée, vous allez voir, ça cartonne avec lui », des choses comme ça. L'enseignant ou l'adulte est déjà orienté dans la relation qu'il va construire avec l'enfant et dans la communication qu'il va mettre en place avec lui, par l'étiquette qu'il a entendue ou que le parent lui a transmis d'une manière plus ou moins explicite. Alors reprenons notre confiture de fraises. Parce qu'il y a un deuxième effet, c'est que l'enfant va être limité par le regard qu'il va porter sur lui-même à travers ce filtre de l'étiquette. Si on reprend donc la confiture de fraises, si c'est notre étiquette, nous allons nous percevoir comme un bocal de confiture de fraises. Et si nos projets, nos rêves, nos objectifs ne sont pas accessibles aux confitures de fraises, nous pouvons alors restreindre nos possibilités. Alors qu'en cheminant dans nos vies sans étiquette, nous avons la liberté de nous fixer des objectifs qui pourraient sembler trop optimiste avec nos capacités actuelles, alors que nos capacités, tout comme nos difficultés ou facilités, évoluent au fil du temps. Et elles évoluent d'autant plus que nous ne sommes pas enfermés figés dans des étiquettes, dans des prisons de mots. Et heureusement pour nous, nous ne sommes pas de la confiture de fraises. Et s'il est tout à fait recommandé d'étiqueter les bocaux, ce n'est pas le cas avec les humains. Si Cédric, notre enfant de tout à l'heure, rêve d'un métier qui nécessite un bon sens de l'organisation, il peut se dire qu'il ne sera pas à la hauteur, que ce n'est pas fait pour lui. Et c'est dommage, parce qu'il se condamne à rester à vie dans cette prison de la désorganisation. Refuser de donner une étiquette, c'est donner à notre enfant la possibilité de ne pas se figer dans une difficulté qui pourrait n'être que passagère. C'est lui ouvrir le champ des possibles. C'est offrir à Cédric la possibilité de s'outiller, au fil des années, de grandes compétences d'organisation, malgré son niveau de départ dans ce domaine. Poser une étiquette de coléreux, par exemple, va condamner l'enfant à regarder sa difficulté à gérer la colère comme étant une composante inévitable de sa personnalité, de son identité. C'est ajouter, à chaque fois qu'on prononce l'étiquette, un barreau à sa prison de la colère. L'étiquette, elle réduit l'enfant à sa difficulté et le pousse à la considérer comme une fatalité dans sa vie. Ça le prive également de sa responsabilité individuelle. Si je suis coléreux, je n'ai aucun pouvoir dessus. Je suis comme ça, c'est tout. Je suis. Il s'agit de l'être, de l'identité. Par contre, si j'ai un problème avec la gestion de mes émotions et de la colère, j'ai plus de pouvoir dessus. J'ai un problème et face à mes problèmes, je peux chercher des solutions. Agir sur ce que l'on a est plus facile qu'agir sur ce que l'on est. Le piège des étiquettes, c'est qu'elles s'imposent généralement à l'enfant comme des vérités. Elles deviennent peu à peu sa réalité et peuvent impacter son comportement et le regard qu'il porte sur lui-même jusqu'à l'âge adulte. Si mon parent dit que je suis maladroit, c'est que je le suis vraiment. C'est un adulte, il sait mieux. Il me connaît bien, donc ça doit être vrai. Et puis il m'aime, donc il ne dirait pas ça si c'était faux. Je suis donc réellement maladroit. Ces étiquettes, elles vont faire partie des ingrédients que nous mettons à disposition de nos enfants pour construire leur estime d'eux-mêmes et leur identité. Alors bien sûr qu'un enfant ne reçoit pas une étiquette sans événement déclencheur, sans raison valable, si je peux dire. Il est évident qu'un enfant ne reçoit pas une étiquette de paresseux s'il fait preuve au quotidien d'un véritable engouement pour se mettre au travail, qu'il se porte volontaire pour rendre service, etc. Pour qu'il se retrouve avec cette étiquette, c'est qu'à un moment donné, et sur une période plus ou moins longue, il a adopté un comportement ou a rencontré des difficultés qui lui ont valu cette étiquette. Et souvent, nous réagissons en disant « Oui, mais en même temps, c'est vrai, il est réellement comme ça, alors je vois pas où est le problème de le dire. » Bien heureusement pour nous, quelque chose de vrai à un moment donné n'est pas forcément vrai sur le long terme. Personne n'est toujours coléreux, paresseux, maladroit, méchant, gentil, sage, désordonné, timide, etc. Pourtant, l'étiquette inscrit l'individu dans ce toujours. Il le condamne à perpétuité s'il ne réussit pas à s'en défaire. Les enfants assument les rôles que nous leur attribuons au travers de ces étiquettes. Un enfant à qui on offre le rôle du boucan de la famille ne va pas passer des heures à colorier en rêvassant. Il y a de grandes chances qu'il exprime ses compétences d'agitateur avec brio dans le grand scénario de la vie familiale. Et même en dehors, parce que nous n'arrêtons pas d'être quand on sort de la maison. Les étiquettes ont même le pouvoir de marquer l'appartenance de l'individu au groupe et de l'identifier. C'est encore plus difficile du coup pour l'enfant de s'en détacher de cette étiquette parce que le besoin d'exister et le besoin d'appartenance est fondamental pour lui, particulièrement au sein de la famille et de la fratrie. Ce qui veut dire que dans les moments d'insécurité, pour se rassurer sur sa place au sein du foyer, il peut adopter une attitude encore plus prononcée en lien avec ce rôle qui lui a été attribué. S'il s'agit du clown de la famille, il va amuser la galerie pour se rassurer sur sa place au sein du foyer, même s'il se sent triste et aurait besoin à ce moment-là d'autre chose. Il va aller chercher l'attention et la réassurance avec le moyen le plus connu qu'il possède, Si c'est le petit monstre de la classe, le maladroit de service ou la râleuse professionnelle, idem. Petit à petit, l'étiquette enferme l'enfant dans un rôle qui devient une prison. Et l'enfant peut ne pas se sentir autorisé à agir à l'opposé de son étiquette durant son enfance, mais également tout au long de sa vie. Alors, nous admettons avec assez de facilité que les étiquettes négatives puissent être néfastes pour le développement de l'enfant, qu'il est peu constructif, décourageant et limitant pour lui de lui rappeler régulièrement ses difficultés. Nous pouvons entendre que les étiquettes négatives jettent de l'huile sur le feu au lieu de l'aider à se dépasser dans ses difficultés. Par contre, il est plus difficile pour nous de prendre conscience que les étiquettes positives peuvent elles aussi faire d'énormes dégâts. J'appelle étiquette positive toutes celles que nous posons avec des compliments ou des remarques positives qui évaluent la personnalité de l'enfant. Serviable, sage, calme, agréable, souriant, intellectuel, gentil, raisonnable, le clown, le doux, etc. Au départ, c'est avec d'excellentes motivations qu'un parent ou un adulte X ou Y pose une étiquette positive. Bien souvent, son désir est de féliciter ou remercier l'enfant pour un comportement plus ou moins répété qui a été agréable à l'adulte. Pourtant, ce rôle de l'enfant sage, serviable, souriant ou drôle peut devenir une véritable prison dans laquelle l'enfant se retrouve enfermé. Dire « tu es » comme ceci ou comme cela, je vous rappelle que c'est parler de l'identité. Il y a une nette différence entre « oh, mais tu es tellement sage, obéissant et serviable, tu n'as rechigné sur rien de ce que je t'ai demandé, c'est toujours un plaisir d'être avec toi ». Et une autre phrase qui transmet notre appréciation, par exemple, « Ah bah cet après-midi, j'ai beaucoup apprécié d'être avec toi. J'ai aimé chaque moment que nous avons partagé et ça m'a vraiment rendu service que tu étends le linge avec moi. Merci. » Dans le premier cas, je parle de la personnalité, de l'identité de l'enfant en posant les étiquettes « sage, obéissant, serviable ». Et au travers de ces trois étiquettes, je lui attribue, malgré moi, trois rôles qui le définissent et l'enferment. Sans trop y réfléchir, nous pouvons dire « où est le problème ? C'est plutôt chouette d'être sage, obéissant et serviable, non ?» Et le problème réside dans les messages que ces étiquettes véhiculent, en fait. Décortiquons ensemble. Vous vous souvenez que l'enfant assume le rôle qu'on lui assigne, car il trouve à travers lui une place au sein du foyer et par ricochet dans le cœur de ses parents et même plus tard au sein de la société. Sortir de ce rôle peut déclencher une grande insécurité, car l'enfant n'est pas certain que s'il s'arrête d'être ce qu'on lui dit qu'il est, il aura toujours sa place, l'amour et la reconnaissance de ses parents. Si je ne suis plus moi, tu m'aimes toujours ? Si je ne suis plus sage, obéissant et serviable, tu m'aimes toujours ? Est-ce que cet amour, est-ce que cette place que je trouve au sein du foyer est inconditionnelle ? L'enfant est donc reconnu et défini par les autres comme cela et finit par se reconnaître et se définir à travers ses étiquettes. Et se comporter autrement, c'est prendre le risque de ne plus être reconnu. Difficile de l'envisager. En grandissant, l'enfant peut continuer à être ce qu'on attend de lui, continuer d'être conforme à son étiquette, mais conforme ne veut pas dire authentique. La conformité et la vérité sont deux choses différentes. Idéalement, nous souhaitons construire une relation avec un enfant authentique et non avec un enfant prisonnier d'un rôle, aussi jolie cette prison soit-elle. Le problème, si l'enfant ne sort pas du rôle de l'enfant sage, obéissant et serviable, c'est que à travers cette étiquette, nous le rendons vulnérable. Être toujours obéissant et serviable, c'est se mettre en danger et manquer de limites personnelles. Nos enfants ont besoin, dès petits, d'apprendre à poser des limites aux autres par respect pour eux-mêmes. Obéir à tout prix et être serviable en tout temps, c'est ne pas se sentir autorisé à dire non. Et un enfant qui ne se sent pas autorisé à dire non est un enfant en danger. D'ailleurs, un adulte qui ne se sent pas autorisé à dire non est lui aussi en danger. Donc, beaucoup d'étiquettes positives privent les enfants de leur défense naturelle face à des personnes mal intentionnées ou face aux épreuves de la vie, tout simplement. Une étiquette de rigolo de service, de petit clown, à la longue, peut priver la personne de dire qu'elle va mal, qu'elle a besoin d'aide. Car pour maintenir un rôle comme celui-ci, il faut garder une façade et perdre une partie de son authenticité. C'est comme ça qu'on finit par entendre « Je comprends pas que mon ado ait fait une tentative de suicide. C'est un ado sans problème, nous n'étions jamais en conflit, il semblait aller bien pourtant. » Ou que l'on s'étonne d'apprendre qu'un proche a fait une grosse dépression alors qu'il sourit tout le temps et remonte le moral à tout le monde. Ce qui nous emmène à cette autre possibilité. Il arrive qu'une étiquette soit devenue si enfermante et insupportable pour l'enfant qu'il décide de catapulter sa prison d'intello, d'adorable enfant, de victime, etc. Qu'il fasse en sorte de renverser la vapeur. Et c'est une bonne chose la plupart du temps, même si ça se fait rarement sans fracas. Mais dans certains cas, ça peut donner de véritables pétages de plomb. L'enfant à l'étiquette d'intello peut tomber en échec scolaire ou arrêter l'école pour clouer définitivement le bec aux gens qui l'entourent et réduire aussi la pression qu'engendrait cette étiquette autour de sa réussite scolaire et professionnelle. L'enfant à l'étiquette calme et raisonnable peut se mettre volontairement en danger et faire toutes sortes d'expériences qui viendraient supprimer cette étiquette. L'enfant à l'étiquette de victime peut décider de renverser la vapeur en faisant subir aux autres la même chose que ce qu'il subissait et adopter un rôle d'agresseur pour reprendre de la puissance et du contrôle sur sa vie. Donc, vous l'aurez compris, une étiquette n'est jamais sans conséquences, qu'elle soit positive ou négative, même si certaines font plus de dégâts que d'autres en fonction aussi de la sensibilité de chaque enfant. Après cette prise de conscience, il nous appartient de libérer nos enfants et de nous libérer de nos prisons faites de mots en différenciant les comportements de la personnalité. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous sommes tous capables de nous comporter gentiment et méchamment au cours d'une même journée, voire d'une même heure. Nous pouvons faire preuve de coopération sans être constamment obéissants. Nous avons des maladresses par moments sans être maladroits. Il nous arrive d'avoir des gestes brusques sans être des brutes et de faire preuve de douceur sans être toujours doux. Il nous arrive d'agresser sans que l'on soit des agresseurs et d'être agressé sans être condamné à être des victimes pour autant. Tout comme faire du pain régulièrement ne fait pas de nous des boulangers, autorisons-nous à ne pas rester figés dans nos erreurs, dans nos difficultés ou même nos facilités, en nous débarrassant une fois pour toutes de ces étiquettes limitantes. Merci pour votre écoute. Bonjour chers auditeurs, je suis à l'écoute de vos questions et je vois qu'il y a une question, une intervention par texto. C'est pour ça que les insultes homophobes sont dangereuses dans les écoles, car elles vont coller une étiquette identitaire qui vont bloquer le processus hétérosexuel de mariage lors de l'âge adulte. À l'époque où l'homosexualité était inimaginable, ce genre d'insulte n'existait pas, et tous les élèves finissaient par fonder une famille plus tard. L'étiquette par insulte des autres élèves sont les plus dangereuses et poussent à la débauche, à l'échec scolaire, puis au célibat, à la stérilité. Quelles que soient les étiquettes, elles sont limitantes, elles paralysent les personnes dans une situation qui n'aurait pu être que passagère, donc c'est évident qu'elles sont à proscrire. Et effectivement, il y a une réalité, c'est que les étiquettes sont présentes dans tous les milieux, et il n'y a pas que les parents qui collent des étiquettes aux enfants, il y a aussi les frères et sœurs qui se collent des étiquettes les uns aux autres, parce que c'est une habitude qui est assez ancrée et c'est des choses qu'ils entendent autour d'eux. Souvent les étiquettes prononcées par les adultes sont aussi reprises par les enfants. Les élèves à l'école se collent des étiquettes, les enseignants collent des étiquettes. Et en tant que parents, si nous pouvons faire attention aux étiquettes que nous collons nous-mêmes, nous n'avons pas de pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur de la maison. Nos enfants ne grandissent pas sous cloche. Et dans ces moments-là, quand nos enfants ont reçu des étiquettes à l'école, par exemple, eh bien, nous pouvons être dans l'accueil des sentiments de nos enfants en leur disant tu as entendu ça aujourd'hui à l'école et comment tu t'es sentie. Est-ce que tu as envie de me dire ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Et voilà, c'est important qu'il y ait vraiment un espace où ils puissent en parler. Et là où on a pointé du doigt peut-être des difficultés chez eux, nous pouvons leur faire voir aussi leur force, leur montrer qu'ils ne sont pas toujours de cette façon-là et qu'ils sont des êtres humains avec un gros potentiel de changement et qu'ils ne sont pas condamnés à ce qu'ils vivent à un moment donné.
Voilà, chers auditeurs de Radio Maria France, nous retrouvons Anaëlle Sanzet et je vous rappelle le téléphone, c'est le 04 94 209 109. Avec nous en ligne, nous avons Ida. Bonjour Ida.
Bonjour Ida.
Bonjour. Et bonjour, je remercie la Radio France et la Radio Maria et pour l'émission. Je voulais dire seulement que c'est une bonne initiative de nous faire écouter des émissions pareilles. Parce que nous les parents, beaucoup de parents ne sont pas informés pour accompagner les enfants dans des situations pareilles. Mais le gros problème que moi je trouve, c'est que les éducateurs, l'école, si on peut trouver des occasions pour les éducateurs aussi, pour ne pas coller dans la manière de coller les étiquettes aux enfants. Et c'est déjà. Pour les parents, il faut qu'on nous apprenne ça. Je ne sais pas si tout le monde peut avoir accès à ces informations. Et c'est très, très, très nécessaire. Parce que moi, je suis victime de ça. Et ne pas savoir accompagner l'enfant, et c'est un danger. C'est un grand danger. Donc, il faut passer ces émissions très souvent. C'est une grande chance qu'on nous apprend ça. Donc, j'ai déjà eu la réponse à la question que je voulais poser. Et comment aider l'enfant à s'en sortir et quand on lui colle des étiquettes? Donc, j'ai encore entendu la réponse. Et je crois que, et c'est ce que j'ai compris, il faut discuter avec l'enfant pour pouvoir l'aider, pour qu'il se rassure.
Alors, merci. Oui, si je peux compléter peut-être la réponse à votre question. Effectivement, c'est important que l'enfant ait un espace où il puisse vraiment ventiler ses sentiments pénibles lorsqu'il a reçu des étiquettes limitantes. Mais il y a d'autres choses encore dans notre accompagnement de parents que nous pouvons faire et notamment commencer à regarder aussi les manques comme les besoins à combler qui sont rattachés à cette étiquette. Je vais vous prendre un exemple. Si un enfant a une étiquette de maladroit, eh bien, avant tout, c'est un enfant qui a un besoin. Ce besoin, c'est de travailler son adresse, sa motricité. Et en tant que parent, nous pouvons l'aider à travers cet apprentissage pour qu'au fil du temps, il acquiert de nouvelles compétences au niveau de sa motricité et qu'il puisse se détacher de cette étiquette d'enfant maladroit. Un enfant paresseux, c'est aussi avant tout un enfant qui a besoin de retrouver de la motivation pour faire les choses. Et comment puis-je l'aider à retrouver de la motivation? Comment est-ce que je peux... parfois l'enfant qui récolte une étiquette de paresseux, c'est un enfant qui va pas bien et qui a perdu toute motivation. Et il y a aussi des souffrances derrière les étiquettes.
De vraies souffrances, je suis vraiment très, très... Et parce que mon fils, il s'est suicidé il y a 3 ans. Il était en 3e. Donc, quand j'étais venue devant le fait, quand j'ai trouvé mon fils, et la première chose que j'ai dit, je me suis dit, l'école ne m'a pas aidée. C'est là que j'ai compris la souffrance de l'enfant. Mais donc, si on pouvait savoir des choses comme ça, pour nous aider à accompagner les enfants, je sais qu'il y a d'autres parents qui sont dans des situations comme ça. Donc, il faut aider les enfants, parler avec les enfants. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Passez une belle journée.
Merci, merci Ida. Et nous avons Anaëlle, nous avons Christiane avec nous en ligne.
Bonjour Christiane.
Et bonjour Anaëlle. Moi je voulais vous poser une question. J'ai été très longtemps, donc je sais que j'avais pas beaucoup le droit à la réponse, hein, quand j'étais chez les grands-parents, juste 3 semaines, mais ça a fallu pour me détruire. Mais en fait, j'avais pas le droit de parler, il fallait obéir, etc. Alors je ne sais pas si c'est pour ça, mais j'étais très longtemps, quand je parlais, je disais toujours « nous ». Et un jour, j'ai un petit copain qui m'a dit « mais pourquoi tu dis toujours « nous » Qui c'est l'autre ?» J'arrivais jamais à dire « je ». Alors est-ce que ça vient de ce fait qu'on m'empêchait toujours de m'exprimer ou d'autres choses ?
Alors c'est difficile là tout de suite de vous dire que ça vient de ça ou uniquement de ça. Il peut y avoir effectivement un petit peu de ça, mais on entend régulièrement les adultes dire aux enfants quand ils cherchent à s'expliquer ou à négocier sur quelque chose, arrête avec tes moi je. Donc effectivement c'est une possibilité. Et quoi qu'il en soit, vous avez évoqué quelque chose qui n'est pas anodin, c'est que même en passant 3 semaines chez vos grands-parents, en ayant ces étiquettes, c'est quelque chose qui a fait des dégâts dans vos vies. Et en fait, on n'a pas besoin de coller une étiquette à un enfant tous les jours pendant 18 ans pour que ce soit douloureux. Une étiquette, elle peut être prononcée juste quelques fois et faire des dégâts considérables parce qu'il va y avoir un retentissement particulier chez l'enfant à ce moment-là. C'est pour ça que lorsqu'on a conscience que les étiquettes sont nocives, nous pouvons aussi en tant que parents faire preuve d'humilité et puis retourner voir l'enfant en disant bon bah voilà, tout à l'heure j'ai dit quelque chose que je pense pas réellement. Effectivement, tu as eu un geste brusque tout à l'heure, mais tu n'es pas une brute. Tu es aussi capable de faire preuve de douceur dans d'autres situations et je tenais à rééquilibrer la balance. Voilà, c'est important. Lorsque nous avons appuyé sur les difficultés ou les défauts de nos enfants, devenir aussi leur montrer quelles sont leurs forces dans ce domaine-là.
Oui, et je pensais à la dame qui parlait juste avant, quand on parle de paresseux. Moi, je vois mon fils s'est traité de paresseux à l'école et partout pendant très longtemps. Et en fait, quand il est né, il a été dans le coma. Et quand on nous a rendu son carnet de santé, on nous a dit on n'a pas tout marqué pour que ça ne le suive pas toute sa vie, parce que c'est eux qui étaient les fautifs de ce qui lui est arrivé, mais on ne nous a pas dit l'essentiel, c'est qu'à cause de son coma, sa mémoire immédiate n'est pas irriguée. Donc il avait beau apprendre, il ne retenait pas. Le professeur lui demandait, il dit oui, j'ai compris, puis lui redemandait une minute après, c'était parti. Et alors toute sa scolarité a été faite comme ça, jusqu'à l'âge de 25 ans. Tous les ans, on allait faire un IRM à l'hôpital de Lorval, parce que l'école nous disait qu'il a des absences. Personne ne l'a jamais vu pendant 8 ans. Et après, seulement, il a rencontré une jeune femme qui lui a fait voir un spécialiste, un neurologue, qui était bien... Disons que les personnes qui ont les moyens peuvent voir, et peut-être pas forcément les autres. Mais enfin, c'est lui qui a découvert que sa mémoire immédiate n'était pas irriguée. Donc, il ne pouvait pas retenir, il retient bien tout ce qui est ancien, ou alors il faut qu'il répète ça ou qu'il le voit pendant 2 ans consécutifs ou qu'il rabâche ou quoi pour que ça reste. Mais n'empêche qu'il s'est fait traiter comme ça de tout et puis ce n'était pas de sa faute. Donc, vous voyez que même dans les hôpitaux, ils ne sont même pas fichus de voir ce qu'il y a, quoi, parce que nous, on ne nous l'avait pas marqué là-bas, et à l'hôpital, il est allé tous les ans. Ils ont fait des IRM, et ils n'ont rien vu sur l'IRM, et ce spécialiste le fait, lui, il le voit. Donc, c'est vraiment très compliqué, hein, parce que...
Ouais. Et effectivement, nombreux sont les enfants qui ont notamment des troubles 10, des dyspraxies, des dyslexies,
voilà,
des dysphasies ou des troubles de l'attention et qui se retrouvent avec des étiquettes de maladroit, des étiquettes de tête en l'air, etc. Et alors qu'il y a une cause qui est complètement indépendante de leur volonté à ce moment-là. Et,
c'est ce qui est arrivé à ma petite fille. Et elle a pourtant, depuis la maternelle, elle est allée voir les orthophonistes, mais en fait, elle ne s'en sont pas rendue compte. Et un jour aussi, ça avait changé d'orthophoniste, et elle avait des enfants qui avaient ce problème. C'est un problème aussi, enfin, elle avait trois choses. Hein. Mais elle a le problème, on appelle de, comment dire, pas le bégaiement, mais pas celui, on fait comme ça, mais comme on n'arrive pas à dire le mot, on ne le dit pas.
Oui.
Et c'est une forme de bégaiement, et on l'a seulement su, elle avait 7 ans, quoi. Et donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on ne nous dit pas, qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas au courant. Et puis, pendant ce temps-là, ben, elle végète. Et puis, elle se sent en dessous des autres parce que les garçons travaillent bien. Et puis, elle n'y arrivait pas. Mm. Et puis, bon, à l'école, c'est pareil. La maîtresse devant les autres l'avait traitée de je ne sais plus trop quoi. Donc, elle voulait plus aller à l'école. Elle s'accrochait après les stops là, près de l'école, elle s'accrochait après ça, puis elle ne voulait pas y aller parce qu'elle s'était fait insulter alors qu'elle n'avait rien fait.
Donc voilà, effectivement, voilà, les étiquettes font d'énormes dégâts dans la vie de nos enfants. Et puis, elles nous font passer à côté de besoins qu'ils ont. Donc, dans le cas de votre petite fille ou dans d'autres cas, des besoins aussi de prise en charge plus importantes. Donc, c'est important de veiller à voir ce qui se trouve derrière cette étiquette. Merci beaucoup.
Voilà, vous voyez bien que même en cherchant, on n'avait pas trouvé.
Merci beaucoup pour votre intervention, Christiane.
Merci, Christiane.
Voilà, merci.
Voilà, Annaëlle, nous n'avons pas d'autres appels pour le moment, juste ce dernier SMS. Voilà.
D'accord, donc nous avons un SMS d'Evelyne qui dit « J'ai deux garçons parmi mes quatre enfants à qui les professeurs ont collé à l'un une étiquette de trop turbulent, à l'autre, je cite, il a un poil dans la main qui lui sert de canne. Le directeur m'a envoyé consulter un pédopsychiatre à l'époque, mais rien n'y a changé, si ce n'est leur pourrir la vie et les dégoûter du système scolaire. Aujourd'hui, ils ont tout de même un métier manuel, l'un pâtissier, l'autre métallier. » métal, serrurier, j'arrive pas à... Mais il ne faut pas leur parler d'école, ils en ont été dégoûtés, Evelyne. Oui, effectivement, ce sont des étiquettes qui n'aident pas les enfants à poursuivre, à persévérer dans le système scolaire, dans les études. Et les enfants turbulents, souvent, c'est une étiquette qui est envahissante et c'est un comportement qui est envahissant de toute manière. Et... les enfants se perçoivent très vite comme incapables de trouver leur calme. Les adultes, dès qu'ils rentrent dans une pièce, les adultes vont avoir tendance à sans même coller l'étiquette avec des mots, mais à dire « Ouh là là, ils vont déplacer les verres, ils vont dire « Attention, touche pas à ça, touche pas à ci, t'approches pas trop du vase. » Donc, même sans dire « Tu es turbulent », l'attitude parentale, tout son langage verbal et non-verbal est en train de coller l'étiquette. C'est pour ça que c'est important non pas seulement d'éviter de coller l'étiquette avec des mots, mais d'adopter un regard neuf aussi sur l'enfant, en se disant « bon, aujourd'hui, ça a été compliqué pour lui de trouver son calme et de peut-être aussi maîtriser sa gestuelle. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui enseigner pour contrebalancer ses difficultés. Et un enfant qui a une étiquette de trop turbulent, il a besoin qu'on lui montre comment prendre des temps calmes, comment aller se ressourcer, comment avoir des gestes plus adroits. Mais c'est un enseignement, c'est pas en hurlant un enfant pour qu'il apprenne ses tables, qu'il va les mémoriser. C'est dans la sérénité qu'on peut apprendre et intégrer des enseignements. Et si c'est vrai à l'école, c'est vrai aussi pour les enseignements de la vie et les codes sociaux et les compétences relationnelles à la maison.
Bien, voilà, donc nous arrivons bientôt au terme de l'émission. Et bien, merci beaucoup Anaëlle Sanzé sur, voilà, sur ce sujet, parce que je crois que c'est un sujet vraiment qui concerne tout le monde, chacun d'entre nous.
Merci à vous, passez une belle journée, au revoir.
Merci Anaëlle, au revoir.